J'ai un côté très créatif en moi et j'ai un côté très structuré en moi. Et les deux, je pense, marchent bien ensemble. Ce que j'aime, c'est l'entrepreneuriat. Je suis passionné de vidéo et j'essaie d'avoir plusieurs activités dans ce domaine-là pour faire en sorte de vivre de cette passion, quoi.
Bienvenue dans ce 8e épisode de Scope. Aujourd'hui, je suis avec Louis Fouché de la chaîne YouTube Gain. C'est un épisode particulier parce qu'on travaille côte à côte dans le même coworking depuis 2 ans et ça faisait longtemps que je voulais l'inviter sur le podcast. Louis accompagne les passionnés de vidéos sur sa chaîne Gain, qui comptabilise près de 70 000 abonnés. Il réalise aussi des films promotionnels pour des marques et propose des formations en ligne sur la vidéo. Dans cet épisode, on va entre autres parler de son expérience sur YouTube, de vidéos de voyage, de créativité et des points essentiels pour réussir dans la vidéo. Si vous voulez recevoir du contenu exclusif par rapport au podcast ou à la chaîne YouTube, il y a un lien dans la description. Je pense que c'est important de recontextualiser un peu l'histoire de notre rencontre.
Ouais.
Est-ce que tu peux raconter tout ça ?
Alors, on s'est rencontrés, alors parce que voilà, pour les gens qui écoutent, il faut savoir qu'on travaille dans le même espace de coworking, qui s'appelle WeWork à Paris, et on a un bureau en face à face, donc on travaille tous les jours côte à côte, parfois ensemble sur des projets, parfois non. On a chacun notre entreprise de vidéo, et de temps en temps tu m'aides pour des projets vidéo, moi je t'aide pour tes projets vidéo. Et en gros, pour restituer un peu notre rencontre, on a tous les deux suivi une formation d'un Américain qui s'appelle Parker Welbeck. Et on était 2 Français à l'époque, ou on était plus, je sais pas, on était combien de Français ?
Non, on était quelques Français. 3-4 Français, mais on était les deux seuls à Paris.
Voilà, donc Lucas m'avait contacté. Et après, tu étais venu, du coup, on avait fini par se rencontrer chez WeWork, et on a bien accroché, on a pas mal discuté de vidéos. Tu étais plus en mode « je vais travailler de chez moi ». Je pense. Et puis au final, tu as adoré WeWork et voilà comment on s'est rencontrés. Et maintenant, on bosse côte à côte sur des projets respectifs et on s'entraide sur nos projets. Voilà. Est-ce que j'ai bien résumé notre rencontre ?
Ouais, carrément, carrément. Mais c'était une grosse décision parce que...
Le fait de venir chez WeWork, tu veux dire ?
Enfin, en fait, pas le fait de venir, mais le fait de rester, en fait, pour moi, c'était une grosse décision parce que j'avais pas d'argent, je venais d'arriver à Paris, je venais de commencer mon business, en gros, de vidéo. Et je te rencontre et je suis inspiré par le lieu.
Ouais, pour expliquer un peu déjà WeWork, les gens connaissent pas forcément, mais c'est, en gros, c'est un espace de coworking, mais vraiment massif. C'est un peu comme une grosse boîte, c'est sur 8 étages. Il y a plein de gens qui travaillent donc qui sont entrepreneurs, soit en freelance, soit plusieurs. Il y a des grosses boîtes qui travaillent chez WeWork qui ont plus de 100 places. Et c'est magnifique comme lieu, c'est très bien décoré, il y a une super énergie. Du coup, quand tu arrives là et que tu connais pas, ça fait souvent un effet assez waouh. Voilà. Donc du coup, t'avais apprécié ça.
Ouais, voilà, donc j'étais sous l'effet waouh justement en arrivant. Et je sais pas, comme ça matchait bien, comme tu l'as dit. Donc j'ai quand même payé un premier mois d'essai en fait chez WeWork. C'est qui coûte assez cher, hein, donc c'était quand même un choix difficile pour moi. Et au final, c'était le meilleur choix parce qu'après, ça nous a permis de faire plein de trucs ensemble. Et on s'entraide tous les jours, en fait.
Le fait d'être deux, déjà, ça change tout. Parce qu'en général, quand on est freelance, on est souvent isolé chez soi. Et moi, c'est d'ailleurs pour ça que je suis venu chez WeWork. À l'origine, moi, j'avais travaillé pareil de chez moi. Et en fait, le matin, ça allait, mais à partir de midi, je déprimais. Et donc, je me suis dit, il faut absolument que je trouve un espace de travail et que je différencie ma vie pro de ma vie perso. Et j'ai trouvé WeWork. Et comme toi, c'était un peu cher pour moi quand tu commences, forcément. Parce que pour ceux qui ne savent pas, mais le prix d'entrée chez WeWork, c'est environ 450€ par mois. Donc ça fait quand même un gros budget. Mais du coup, je me suis dit, j'investis là-dedans, je pense que je vais avoir un retour sur investissement et que le fait d'être dans un endroit qui me pousse vers le haut, qui me tire vers le haut avec des gens intéressants, va m'aider dans mon projet. Et au final, comme toi, ça a été un des meilleurs choix. Puisque du coup, on s'est rencontrés chez WeWork. Il y a plein de gens autour de nous qu'on rencontre et avec qui on tisse des relations de travail au quotidien chez WeWork. Donc, c'est hyper bénéfique, quoi.
Ouais, ça, c'est devenu un écosystème pour nous entier, ouais. Quoi. Ça fait 2 ans qu'on s'est rencontrés, mais j'aimerais aussi un peu savoir ce que tu as fait avant, comment tu as découvert la vidéo, ouais. Et qu'est-ce que tu as fait comme parcours.
Alors, je vais la faire assez rapide, mais en gros, moi, j'ai fait d'abord un bac scientifique, à la suite duquel j'ai fait un DUT technique de commercialisation, donc c'est un profil plutôt commercial, parce que je voulais faire de la pub. En fait, très vite, j'ai identifié que je voulais faire quelque chose un métier créatif, mais j'étais aussi attiré par le côté plus commercial, marketing, business des choses. L'entrepreneuriat, j'étais très attiré par l'entrepreneuriat et aussi par la création. Et c'était pas forcément la vidéo au début. Je suis issu d'une famille assez artiste, ma mère est peintre, mon père est styliste, donc j'ai toujours baigné un peu dans la création, j'ai toujours fait beaucoup d'art plastique, etc. J'ai même hésité à faire une école d'art. Mais donc finalement, j'ai décidé de faire de la publicité, puisque ça mêlait un petit peu voilà, ce côté créatif, direction artistique, créer des pubs, vidéos, même photos, je ne savais pas encore quoi, et puis le côté plus avec le marketing, le côté commercial qu'il y a dans la publicité. Donc ça mêlait bien les deux. Et ensuite, je suis arrivé donc, chez BETC, qui est une agence de publicité. Donc j'ai travaillé pendant plus d'un an en agence de publicité, dans le département créatif, justement, avec un pote qui était directeur artistique et moi, j'écrivais un petit peu les slogans. J'ai fait aussi le département commercial, chef de projet et ensuite de la stratégie. Donc, j'ai fait un peu tous les départements dans la pub. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire pas mal de vidéos et mes vidéos beaucoup plus. Du coup, je me suis dit, ah, il y a peut-être un truc à faire là-dedans et moi, j'aimais ça. Ensuite, je suis allé chez Danone. Donc là, autre sujet, en fait, c'est un client de chez DETC qui est Evian, la marque Evian, qui m'a recruté pour faire de la communication digitale, donc de la pub en gros, mais chez l'annonceur, donc chez la marque, pas en agence de pub. Et ensuite, Danone, le groupe Danone m'a recruté dans l'équipe de transformation digitale. Donc je suis passé quand même de l'agence de pub à la transformation digitale, donc il y a quand même une grosse différence et une perte de créativité. Il n'y a plus du tout de création en transformation digitale. En gros, pour résumer, le but c'était d'aider un petit peu le groupe Danone à faire en sorte de se digitaliser, de travailler avec les nouveaux outils. Donc c'est plus un job de stratégie que de créativité. Du coup, c'est vrai que ça me plaisait un peu moins. Et j'ai quitté mon job pour lancer du coup ma boîte de prod. Et en fait, chez Danone aussi, juste pour faire le pont, ils savaient que je faisais des vidéos. J'en ai fait chez Danone, chez BETC, qui ont plu. Donc à force, en fait, on me demande des vidéos et de voir que ça plaisait. Je me suis dit peut-être que je lance ma boîte de vidéos parce que j'adore faire ça. Et au final, tu vois, ça se recoupe puisqu'aujourd'hui, j'ai ma boîte de production de vidéos, mais je fais aussi du marketing pour moi. Donc en fait, j'ai fait des études de marketing qui finalement me servent aujourd'hui, mais dans le marketing de mes produits à moi et de mon entreprise. Donc au final, je suis entrepreneur autour de la vidéo. J'aime pas trop me définir comme un cadreur, par exemple, ou un freelance ou quoi. Moi, ce que j'aime, c'est l'entrepreneuriat. Je suis passionné de vidéo. J'essaie de mêler les deux et d'avoir plusieurs activités dans ce domaine-là pour faire en sorte de vivre de cette passion, quoi.
Est-ce que tu peux me parler des francs publicitaires ?
Ouais.
C'est quoi ça exactement ?
Alors, en gros, ça, c'est... Je l'ai pas évoqué parce que sinon, ça aurait été un petit peu long. Mais effectivement, quand j'étais en école de commerce, j'ai décidé de monter des projets personnels en parallèle de mes études pour justement avoir toutes les chances pour intégrer une bonne agence publicitaire. Donc du coup, je me suis dit, ça peut être cool de créer un blog. C'était un blog, les francs publicitaires, pour aller à la rencontre des publicitaires, les interviewer sous forme de vidéo. Donc c'est aussi grâce à ça effectivement que j'ai pris un goût à la vidéo. Et donc on allait, si tu veux, interviewer des publicitaires et leur poser des questions sur leur stratégie publicitaire. Et ça nous a pas mal aidé puisque grâce à ça, grâce aux francs publicitaires et à une conférence aussi que j'ai organisée dans mon école, où j'avais invité des mecs plutôt en place dans la pub, j'ai réussi à avoir un stage chez BETC. Donc c'est vrai que ça a été un projet important, ce blog. Et c'est ce blog-là aussi qui m'a donné le goût aussi de poser des questions aux gens, l'interview. Tu vois, j'aime beaucoup aussi poser des questions et le côté de journaliste m'intéresse. Et pour faire le pont avec ça, après, plus tard, les francs publicitaires, j'ai lancé un autre blog qui s'appelait Gora, où j'allais interviewer des gens, mais des personnes qui font des projets créatifs dans plein de domaines différents. Donc c'était plus large que la publicité. Voilà. Et c'est vrai qu'avant de faire Grain, du coup, j'ai fait deux blogs qui m'ont quand même pas mal appris de choses sur comment créer un projet, le développer, comment créer des vidéos, être devant la caméra aussi. Donc tu vois, il y a un passif avant Grain.
Je pense que tu as fait combien de vidéos dans ce style ?
Dans les francs publicitaires et Gora, je vais en faire une centaine en tout.
Ouais, c'est quand même pas mal.
Je dirais, ouais. Et dans les francs publicitaires, j'étais pas devant la caméra, j'étais derrière la caméra, je posais des questions. Et donc c'était le publicitaire qui était filmé. Et après, dans Gora, par contre, je me suis mis devant la caméra. Et donc j'ai interviewé côte à côte comme un journaliste.
Ah oui, ça, j'ai pas vu.
Ouais. Voilà. Et c'est grâce aussi à ce projet-là que j'ai pu faire mes armes sur être plus à l'aise devant la caméra, même si quand j'ai commencé Grain, j'étais pas encore hyper à l'aise. Et encore aujourd'hui, je suis pas hyper à l'aise. C'est un long travail. Mais c'était mes premières armes, ouais, devant la caméra.
Là, tu as parlé de ton parcours jusqu'à ta boîte de prod, mais donc tu n'as pas beaucoup parlé de YouTube. Est-ce que tu peux me dire un peu où tu en es ?
Ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais auto-entrepreneur pendant pas mal de temps. Chez Danone, j'avais déjà créé mon compte d'auto-entrepreneur et je facturais déjà à l'époque des prestations en tant qu'auto-entrepreneur. Et ensuite, quand j'ai quitté Danone, j'ai créé une vraie société de production et j'ai commencé à faire de la production avec des clients justement existants. Danone était un de mes clients, certaines agences de publicité étaient mes clients. Et ensuite, j'ai découvert des gens qui faisaient des vidéos sur YouTube. Ce qui m'inspire le plus, c'est les Américains, comme Peter McKinnon, comme Matty Apoya. Surtout Matty Apoya, d'ailleurs, que j'ai connu quand il n'avait même pas lancé de chaîne YouTube. Il avait juste un Vimeo, il faisait des vidéos de voyage. Et je suivais déjà ce qu'il faisait. Je lui posais 10 000 questions par mail. Il me répondait à l'époque. et du coup, j'ai découvert ces mecs-là qui ont lancé des vidéos sur YouTube et qui partageaient leur passion, créaient aussi des produits digitaux et qui vendaient à leur audience, et ça leur permettait d'aider un maximum de monde et aussi de vivre de ça, autrement que par le freelance ou par les projets pros. Et moi, ça m'attirait beaucoup, ça, puisque j'ai toujours aimé faire des projets pros, mais c'est le fait de travailler pour un client et de faire moins de projets créatifs, il y a quelque chose qui me manquait. Et en plus, ça faisait le pont avec ce que j'avais fait avec Gora, avec les francs publicitaires, le fait de parler devant la caméra, de partager des choses, d'expliquer des choses, d'aller à la rencontre aussi d'autres personnes. Et du coup, j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube. Et c'était, je crois, à l'été 2016, hein, quelque chose comme ça. Voilà, donc ça fait maintenant presque 3 ans.
Pour ceux qui ne connaissent pas encore Grain, donc tu as 66 000 abonnés, là, tu as 107 vidéos en ligne et tu as 3,3 millions de vues. Donc tu as pas mal éprouvé le truc quand même.
Ouais.
Et je voulais te poser la question, si tu devais tout recommencer à zéro maintenant, qu'est-ce que tu ferais différemment pour ta chaîne YouTube ?
C'est que j'aurais pu trouver un format plus tôt. Tu vois, par exemple, moi, ce que j'aime bien sur YouTube, c'est j'ai un côté un peu carré où j'aime bien les formats très précis, tu vois. Par exemple, le fait de faire du vlog, c'est un format. Le fait de faire un tutoriel face caméra qui dure 2 minutes, comme Peter McKinnon fait, par exemple, c'est un format. Et moi, très vite, je me suis dit, il faut que je trouve mon format. Mais en fait, je me lasse très vite. Je suis assez perfectionniste, je change pas mal d'idées. Donc du coup, j'ai testé plein de trucs différents sur YouTube. J'aurais pu plus vite trouver mon format, mais au final, non, puisque je pense que c'est à travers tous ces tests-là que j'ai aussi trouvé ce que j'aime faire aujourd'hui. Tu vois, j'ai testé de faire du vlog, j'ai testé de faire des tutoriels face caméra, j'ai testé plein de trucs. Et au final, je regrette pas. Je pense que je ferais pas grand-chose différemment. Je continuerai à tester plein de choses, en fait.
Au début, quand tu as lancé YouTube, tu avais pour idée de gagner de l'argent avec ?
Non, pas forcément. Au début, c'était plus pour partager des tips vidéo, créer une communauté et plus être seul justement parce qu'il y avait ce côté-là un peu isolé à faire de la vidéo de son côté. Donc le fait de créer une communauté, de partager des choses, de grandir ensemble avec d'autres personnes, c'était intéressant. Et puis le fait d'avoir une audience aussi, enfin, de créer une audience, ça permettait aussi d'aller voir d'autres vidéastes qui étaient plus avancés que moi, tu vois. Donc ça a toujours été un truc que j'ai voulu faire. Je me suis dit, quand j'ai créé les francs publicitaires, pareil, je me suis dit... Je veux faire de la publicité, je veux travailler dans une agence de pub. Du coup, il faut que j'aille parler à ces publicitaires. Et il faut que j'ai un prétexte pour le faire. Et du coup, le blog, c'était un prétexte pour aller parler à des publicitaires. Et là, Grain, hormis le fait de partager ma passion, c'était aussi un prétexte pour aller parler à des réals plus avancés et pour me permettre de réussir à avancer dans cette passion et de trouver ma voie, quoi. Donc, il y avait ce côté-là, partager une passion et pouvoir rencontrer plein de gens. Au début, c'était plus ça.
Ouais, et puis ces deux dernières années, tu as rencontré beaucoup de youtubeurs aussi, donc qui sont tous très créatifs.
Ouais, et tu vois, ça s'est avéré, quoi. C'est ce qui s'est passé. J'ai rencontré des youtubeurs et maintenant on connaît quand même pas mal de personnes dans le milieu de la vidéo, que ce soit des youtubeurs, des gens qui font de la fiction, d'autres qui font plus des vidéos institutionnelles. Donc je pense que le fait de créer cette chaîne, ça a pas mal marché aussi pour créer une communauté, rencontrer des gens.
Là, tu rentres de voyage de Tahiti. D'après toi, qu'est-ce qui fait une bonne vidéo de voyage ?
Bonne question. Moi, c'est vrai que j'adore les vidéos de voyage. J'en fais pas mal. Et je pense que c'est même les vidéos sur lesquelles je travaille le plus et que je donne le plus de moi-même.
C'était quoi ta première vidéo de voyage ?
Ma première, c'était... Enfin, j'en ai fait plein, mais ma première significative, c'est la vidéo de Californie, que vous trouvez sur YouTube, qui s'appelle California Road Trip 4K, je crois. Et ensuite, j'ai fait une vidéo à Bali l'année dernière et une à Tahiti cette année. En fait, je pars souvent avec ma copine en voyage dans des destinations assez cool. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de, quand je partais en vacances, faire des vidéos de voyage. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire Californie, puis Bali, puis Tahiti, et j'ai pris goût. Et cette année d'ailleurs, Tahiti, c'est la première vidéo que je fais en collaboration avec des marques. Donc on est sponsorisé par plusieurs marques pour cette vidéo. Et ça permet de joindre l'utile à l'agréable, quoi, de faire de la vidéo dans des destinations cool, de raconter une histoire. C'est un moyen aussi de pouvoir faire du storytelling et de raconter une histoire de façon assez simple, avec juste ses potes, ou sa famille ou sa copine, sans créer une fiction. Tu vois, souvent on se dit quand on veut faire une vidéo, il faut... Je vais raconter une histoire cool, mais il faut écrire quelque chose, il faut souvent recruter des acteurs, ça peut être compliqué. Et la vidéo de voyage, tu peux facilement t'épanouir avec des scènes du quotidien, essayer de trouver des bons plans. Et pour répondre à tes questions, ce qui fait une bonne vidéo de voyage, je pense qu'il y a plein de choses, mais déjà, il faut... Moi, ce que j'aime, c'est les vidéos de voyage rendues cinéma, un peu, qui ont un look cinématographique, donc pas forcément besoin d'avoir une caméra hyper chère ou quoi, mais se renseigner un peu sur comment fonctionne une caméra, comment réussir à avoir un look cinéma. Avoir une image professionnelle aussi, donc ça passe par la stabilisation, par la composition, par les réglages de caméra, donc je pense que ça faut quand même bien l'appréhender avant de faire une vidéo de voyage. La composition aussi beaucoup, c'est quelque chose qu'on sous-estime pas mal quand on commence, mais comment on compose nos plans, comment on agence les éléments dans une image, c'est très important pour faire une belle image. Ensuite, il y a le rythme de la vidéo. Moi, je monte souvent en musique, et le choix de la musique est très important. Trouver des musiques qui correspondent à votre univers, mais qui aussi sont assez rythmées, qui soient pour vraiment garder le spectateur longtemps sur la vidéo. Après, il y a plein d'autres tips. Il faut aussi que, par exemple, au début de la vidéo, moi, ce que je conseille, c'est de mettre souvent ses meilleurs plans au début. Alors qu'en général, d'instinct, on va se dire, ouais, je vais garder les meilleurs plans pour le milieu ou la fin. Je vais commencer par des plans un peu calmes et tout. Et ce qui se passe en vrai, c'est que les gens partent très vite de la vidéo s'ils ne sont pas captivés. Donc très vite, en général, je mets mes meilleurs plans. Moi, je monte assez de façon rythmée aussi, mais ça, ce n'est pas obligatoire. Chacun son style. Mais voilà, je pense que ça passe par beaucoup de choses, dont maîtriser la création d'une image, maîtriser le rythme et maîtriser aussi l'étalonnage. Ça, je ne l'ai pas dit, mais l'étalonnage, c'est aussi très important pour avoir un look cinéma, pour avoir un rendu. Moi, ma spécialité, c'est un peu ce rendu cinéma que j'aime... Que j'aime explorer, mais après ça dépend, il y a des gens qui cherchent pas forcément ça.
Et sur le terrain, comment tu fais pour trouver la ligne directrice de ton histoire? C'est parce que tu sais pas à l'avance ce que tu vas raconter exactement. Comment tu fais pour savoir où tu vas?
C'est vrai que je sais pas à l'avance ce que je vais raconter, mais je planifie un petit peu quand même la vidéo. C'est-à-dire que je me dis, ok, on part à Tahiti, il faut que dans cette vidéo il y ait des images de moi, des images de ma copine, puisque c'est quand même nous les personnages principaux de l'histoire. Ça, c'est aussi un autre tips, mais par exemple, en vidéo de voyage, après, c'est très personnel, mais moi, les vidéos de voyage où tu vois juste des arbres, la nature, des montagnes, sans fil conducteur, sans personne, ou personnage qui incarne le film, ça peut être un véhicule, ça peut être un animal, ça peut être des personnages humains, mais en tout cas, juste voir de la nature, moi, ça m'ennuie très vite. Et donc, du coup, ça, c'est un truc aussi que j'essaie toujours d'intégrer dans mes vidéos, c'est de l'humain. Moi, j'aime bien travailler avec de l'humain. Donc là, en l'occurrence, les personnages principaux, c'est Marine et moi. Donc, il faut qu'il y ait des plans de nous, il faut qu'il y ait des plans des Tahitiens aussi, des locaux. Il faut qu'il y ait des plans après de nature. Il faut qu'il y ait des plans après, j'essaie de catégoriser. Je me dis, ok, dans la culture polynésienne, qu'est-ce qu'on peut faire comme plan? Peut-être la danse polynésienne, peut-être voir des Polynésiens qui passent en pirogue, peut-être voir le marché à Papeete, parce qu'il y a un grand marché, c'est quelque chose de très connu là-bas. Ensuite, dans la nature, qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, peut-être voir des requins, la faune sous-marine, la faune terrestre. Voilà. Donc, j'essaie de segmenter comme ça les plans que je vais avoir. Et aussi, bien sûr, d'avoir des plans aériens, des plans terrestres et des plans sous l'eau. Donc tu vois,
ça fait beaucoup.
En général, j'essaie de catégoriser rapidement, non, mais je ne me dis pas forcément que je veux absolument avoir le plan, je veux avoir telle activité ou quoi. Je me dis juste que je fais des grandes familles d'activités et ensuite j'essaie de matcher un maximum tout ça pour que le film soit puissant en fait.
Comment ça se passe quand tu te balades comme ça en voyage et d'un coup tu vois un truc magnifique que tu as absolument envie de filmer mais que tu n'avais pas prévu? C'est quoi ton plan? Est-ce que tu te dis, attends, là c'est cool, donc du coup je vais demander à ma copine de faire telle action, je vais prendre un plan large, un plan moyen, un plan serré, comment tu t'organises concrètement sur le terrain à ce moment-là?
Alors c'est très simple, tous les jours quand je suis en vacances et que je fais un film de voyage, on se lève et j'ai ma caméra toute la journée, du matin au soir. C'est-à-dire que ma caméra n'est jamais dans mon sac, elle est toujours sortie. Là pour ce voyage-là j'ai utilisé le glidecam, donc elle était toujours sur le glidecam, sur le stabilisateur. Et en gros, je la trimballe partout. Et partout, c'est-à-dire à tout moment. C'est-à-dire que même si on a fait une journée éprouvante et qu'on a pris une douche et qu'il fait nuit et qu'on va juste prendre une pizza parce qu'on a faim et qu'il n'y a rien à prendre, je la prends quand même pour aller à la pizza parce qu'on ne sait jamais s'il y a une petite lumière, un Polynésien un peu sympa qui va faire un sourire ou quoi. Donc, déjà, il faut savoir que c'est très lourd. C'est-à-dire que tu pars en vacances, mais tu vis tes vacances au prisme de la vidéo quand même, au travers de la vidéo. Donc, j'ai la chance d'avoir une copine qui accepte pas mal ça, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Et ensuite, effectivement, déjouer un truc un peu sympa. J'essaie de couvrir un maximum de valeurs de plans, donc je fais des plans larges, des plans serrés, je fais des plans fixes, des plans en mouvement aussi, pour avoir après beaucoup de choix au montage.
Ouais, voilà. Parce que en fait, l'erreur qu'on peut faire, c'est en voyage, on voit quelque chose de beau, par exemple un magnifique coucher de soleil, tu prends juste un plan du coucher de soleil, et après quand tu reviens sur ton montage, tu fais ok, mais ça, je peux pas mettre un plan de coucher de soleil en plein milieu d'une vidéo de voyage, il faut qu'il y ait au moins 2-3 plans qui se suivent pour que ce soit sympa.
Ouais, c'est ça. Et puis c'est bien d'avoir aussi de varier les mouvements, comme j'ai dit, d'avoir des plans fixes, des plans en mouvement, de varier aussi les focales. Tu vois, souvent je fais un plan un grand angle et puis ensuite un plan beaucoup plus serré. Comme ça me donne vraiment plein d'options au montage et après je sais pas si je vais utiliser tous ces plans-là. Mais j'ai beaucoup de choix. Et autre chose aussi, c'est que j'essaie de shooter un maximum avec une bonne lumière. Pas mal de vidéastes disent qu'il faut shooter uniquement en golden hour, c'est-à-dire soit une heure après le lever du soleil ou une heure avant. Mais c'est très compliqué dans les faits quand t'es en vacances de shooter qu'en golden hour puisque c'est compliqué. Enfin, parfois t'es dans un endroit hyper sympa avec tu fais une activité très sympa en pleine journée. Il faut quand même le filmer. C'est pas parce que c'est pas en golden hour qu'il faut pas le filmer. Après, quand on est en pleine lumière, en lumière du jour, très dur, il y a des moyens pour essayer que l'image soit bonne, se mettre dans des parties plus ombragées par exemple. Il y a des moyens pour essayer de filmer en pleine journée et que ça rentre bien. Mais c'est vrai que de manière générale en vidéo, on essaie d'avoir la lumière la plus douce possible. Et en voyage, c'est une grosse problématique puisque voilà, la majorité du temps, quand on va faire des excursions, quand on va dans un endroit cool, c'est en pleine lumière, quoi, en pleine journée.
Mais en voyage, quoi qu'il arrive, tu contrôles jamais la lumière. Tu fais avec ce qu'il y a et tu composes avec ce qu'il y a souvent.
Enfin... Ouais, alors après, tu peux quand même t'organiser pour essayer de faire des activités le soir ou le matin. ou partir en scooter. Moi, très, très tôt, ce que je faisais, c'est que je partais souvent en scooter avant le lever du soleil. Et j'allais faire des plans au drone, tu vois, vraiment au lever du soleil. Donc ça, c'est un truc que je faisais quasiment tous les matins, ou tous les deux matins, pour avoir quand même des plans en golden hour, parce que c'est ça c'est magnifique en vidéo. Mais ensuite, en pleine journée, parfois, on est sur le lagon avec Marine, on fait de la plongée, on n'a pas le choix, c'est en pleine lumière. Donc voilà, si tu veux un peu comment je m'organise, c'est beaucoup de captures d'images. Tu vois, au début, je shootais énormément, je me disais non, il faut pas que je shoote trop, il faut que je shoote utile, uniquement ce qui est bien. Et au final, je me rends compte avec l'expérience qu'il vaut mieux shooter beaucoup, voire même trop. C'est comme ça qu'on fait les meilleurs films. Faut pas être avare dans la manière dont tu shootes tes plans, tu vois.
Je vais te poser une question totalement différente maintenant. Mais j'aimerais que tu imagines qu'il y ait une grosse société de production hollywoodienne qui t'appelle et qui te dit « Louis, on adore ton style et tout, on va investir sur toi. On te donne le budget que tu veux pour faire ton premier film de cinéma.
Ouais. »
Qu'est-ce que tu ferais comme film? Qu'est-ce qui te ferait kiffer?
Alors, on est obligé de faire un film de cinéma?
Ce sera un film avec un énorme budget, si t'as envie.
C'est forcément une fiction, je veux dire, un long métrage ou une fiction.
C'est le genre de film qui passe au ciné. Donc, c'est soit un docu, soit une fiction.
Ok, parce que justement, ce que j'allais te dire, c'est quand.
C'est un long métrage, en fait.
Enfin, ça m'inspire quelque chose, c'est qu'au début, quand j'ai commencé la vidéo, je me disais, je veux être réalisateur de films. Je veux être réalisateur de cinéma. Parce que quand t'es petit, tu vois beaucoup de films, enfin même quand t'es adulte aussi. C'est la vision souvent ultime qu'on a du vidéaste, c'est le réalisateur de cinéma. Et alors qu'aujourd'hui, alors j'ai pas beaucoup testé la fiction, mais en fait ça m'attire pas tant que ça, tu vois. Je me suis rendu compte à force de faire de la vidéo que ce que j'aime moi surtout, c'est les belles images, quoi. Faire des belles images, justement un peu ce rendu cinéma dont je te parlais, sans faire du cinéma. Tu vois, faire une fiction, je sais pas si ça me plairait, je l'ai pas testé, mais faire en sorte que... Jean qui parle à Jeanne et faire un chant contre chant avec le preneur de son, le script qui est là, et d'avoir un tournage très organisé avec plein de gens. Je sais pas si ça me plairait, peut-être, hein, mais je sais pas si ça me plairait. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Donc moi, peut-être que si on me donnait un gros budget, ce qui me tenterait plus de faire, c'est effectivement une sorte de clip ou de vidéo de voyage, voilà, d'un truc avec de la musique, parce que j'aime bien monter en musique, et avec des très belles images, donc avec des grosses caméras ou quoi. Mais tu vois, la fiction déjà, c'est pas forcément quelque chose qui m'attire pour l'instant. Et oui, et je pense que je ferai peut-être... Alors peut-être que j'essaierai de faire un film de voyage, mais vraiment le film de voyage ultime. Parce que je suis passionné par ça, par le film de voyage. Je pense qu'il y a plein de choses à faire. Et il y a déjà un gars pour moi qui a fait le film de voyage ultime. C'est les frères Tarasov, qui sont deux Russes. Et si vous allez sur Vimeo et vous tapez Road Story Vietnam, ils ont fait un film il y a quelques années lors d'un road trip au Vietnam qui est très qualitatif déjà.
C'est celui avec la moto ?
Ouais, avec la moto. Pour moi, ça, c'est la version ultime du film de voyage. Et après, quelques temps après, il y a Airbnb qui l'a contacté pour faire un film en partenariat avec Airbnb. Et il est parti en Inde. Donc ça, il faut que vous ayez la voir. Vous tapez Airbnb, enfin, Georgie Tarasov, tu mettras dans le description du podcast. Et en gros, ça, pour moi, c'est le film de voyage ultime, quoi. C'est-à-dire, il a fait un film avec Airbnb, ultra produit. Je pense qu'ils étaient une équipe de 10 ou 20 personnes sur place. Filmé entièrement à la Blackmagic avec un Ronin S, je crois. Et le film est incroyable, c'est exactement moi les émotions que j'aime transmettre en voyage. Et lui, pour le coup, il y a un gros budget. Je pense qu'il y a un énorme budget. Tout est scripté, tous les plans, on voit qu'ils sont travaillés à la perfection. L'étalonnage est parfait, les mouvements sont magnifiques. Et ça, pour moi, c'est un truc qui me plairait. Je pense que si on me donne un gros budget, je veux faire la vidéo de voyage ultime. Pour l'instant, moi, j'ai jamais eu l'occasion de faire un truc très produit avec une équipe de 10 personnes ou quoi. Et ça, par contre, j'aimerais bien tester. Voilà, sans forcément entrer dans une fiction ou quoi, mais j'aimerais bien travailler avec d'autres gens, travailler avec quelqu'un qui s'occupe vraiment. Alors moi, peut-être que je m'occuperais. Tu vois, soit de la réalisation, soit de chef opérateur. Je sais pas encore quelle serait ma place dans une équipe de prod, mais l'un ou l'autre, je pense.
T'es autant intéressé par le fait d'apprendre sur ce tournage que le film au final, en fait?
Ouais, en fait, je suis intéressé par le fait de travailler en équipe. Moi, j'apprécie le fait de travailler en équipe, d'avoir une team. Et tu vois, c'est ça aussi que j'essaie de faire avec ma chaîne YouTube, c'est de créer un peu une communauté. Donc, moi, j'aime le côté team, tu vois. Et après, je suis très perfectionniste et je sais ce que je veux. Donc, tu vois, je sais pas si je pourrais laisser à un chef opérateur le fait de faire l'image. J'ai envie de la faire moi. En même temps, je pense que j'aimerais bien diriger les acteurs, donc j'aimerais bien être réel. Donc je ne sais pas encore si je suis réalisateur ou chef opérateur, tu vois. Mais je suis très technique, j'adore les caméras, j'adore me renseigner sur les caméras. Et en même temps, j'ai le côté direction acteur que j'aime bien. Donc je ne sais pas encore, mais en tout cas, voilà, j'aimerais travailler plus en équipe.
Tout à l'heure, tu disais que tu as réussi à garder le côté artistique et le côté marketing business dans ton activité aujourd'hui, avec à la fois la boîte de prod et à la fois YouTube. Et j'aurais aimé savoir quels sont les aspects business qui te plaisent le plus au quotidien.
Pour clarifier un peu ce que j'ai dit, c'est pas forcément avec la boîte de prod et avec YouTube. Alors, ce qui est vrai, c'est que YouTube me permet de faire des projets créatifs personnels. Tu vois, c'est aussi un gros point positif de YouTube, ça je l'ai pas dit, mais c'est vraiment un territoire qui te permet de faire tes projets personnels et de faire vraiment ce qui sort de toi sans aucune commande client, sans aucun retour client. Et ça, c'est très important, puisque très vite, ce qui peut se passer, et ce qui aurait pu m'arriver, c'est que tu montes ta boîte de prod, et du coup, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu as plein de clients qui arrivent, des startups, ça peut être des grands groupes, ça peut être des agences de production de contenu qui te demandent de faire des vidéos institutionnelles, des interviews, des portraits vidéo, de machin. Et du coup, tu réponds à des commandes. Alors certes, tu mets un peu de créativité dedans, tu essaies de faire des beaux plans, des belles stabilisations, mais très vite, comme c'est le projet du client, tu es au service du client, donc tu te dois quand même de répondre au client et de faire le projet qui correspond au client en mettant un petit peu de créativité, mais très vite tu vas rentrer dans une frustration, c'est indéniable, tu vois, c'est impossible que ce soit autrement, puisque tu ne mets pas tout ce que tu veux de toi. Et du coup, c'est vrai que YouTube permet à côté de ça de t'exprimer créativement, et c'est un équilibre à trouver. Bon, ça c'était juste une parenthèse. Et ensuite, là où je fais du marketing, c'est plus par rapport à mes formations aussi en ligne et ma chaîne YouTube globale, puisqu'en fait, pour expliquer un peu aux gens s'ils ne savent pas, c'est que sur YouTube, je fais plein de vidéos gratuites où je donne des tips sur la vidéo et je fais aussi des vidéos de voyage. Et en parallèle de ça, je fais aussi des formations pour aider les vidéastes passionnés ou qui veulent se lancer plus profondément. Donc par exemple, j'ai lancé aujourd'hui deux formations. Une formation sur le montage vidéo. En fait, pendant cette formation-là, je vous montre vraiment de A à Z comment je monte un film de voyage. Donc là, je prends pour exemple le film de voyage de Californie. Vraiment, je vous montre mon workflow complet. Et après, j'ai une autre formation où je vous explique comment j'utilise des luttes et je vends aussi un pack de luttes que j'ai créé. Donc en fait, ces formations-là, ensuite, YouTube me sert aussi de vitrine pour mettre en avant ces formations-là. Donc c'est dans ce sens-là que je fais du marketing pour moi-même. Mais ensuite, du coup, ta question, c'était quoi exactement?
Ma question, c'est quels sont les aspects business qui te plaisent le plus? Parce que je parle principalement de la boîte de prod, en fait.
Ouais, dis-moi.
Par exemple, la gestion des clients, l'organisation des tournages, répondre à des commandes.
Alors ça ne me plaît pas à la base du tout. C'est un truc qui me plaît. À la base, moi, ce que j'aime faire, c'est faire des vidéos, tu vois. C'est vraiment créer des vidéos. Et en fait, ce qui s'est passé avec mon entreprise, c'est qu'au début, j'ai travaillé tout seul et je prenais les demandes clients. Et donc, je faisais des projets où j'essayais de mettre un maximum de créativité. Mais c'est vrai qu'assez vite, j'étais frustré par les retours clients. Et du coup, c'était assez dur. Et c'est ça que je m'épanouissais beaucoup plus dans YouTube. Et récemment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à déléguer. Donc, je commence à travailler avec des freelances. Donc, on a déjà travaillé ensemble sur des projets. Je travaille avec d'autres freelances qui, par exemple, montent la vidéo. Et là, c'est vrai que j'ai un rôle plus de gestionnaire de projet. Et c'est quelque chose que j'apprécie. Donc, en fait, c'est vrai que en termes de business, à la base, au tout départ, je voulais monter des vidéos. Mais très vite, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas monter à la fois mes vidéos YouTube, à la fois les vidéos de clients, à la fois les vidéos de voyage. C'est trop de travail et en fait, c'est trop dur pour un seul homme, quoi. Donc, du coup, ce que j'ai essayé de faire, c'est de me concentrer sur ce que j'aime faire le plus en montage et en tournage, donc mes vidéos de voyage, ça je les fais de A à Z. Et par contre, pour la boîte de prod, je continue à prendre des projets clients, mais c'est plus moi qui les monte forcément, ou c'est plus moi qui les tourne, mais j'ai toujours un œil créatif dessus, et je garantis, si tu veux, aux clients un certain niveau de qualité, en essayant de former des freelances à mes méthodes de production. Donc pour répondre à ta question, c'est le business qui me plaisent, c'est vrai que je prends de plus en plus de plaisir à prendre un brief client, et essayer de trouver les meilleurs freelances possibles, pour créer un projet qui va plaire aux clients. Et moi, je continue à faire de la vidéo, et à m'inspirer, et à développer ma créativité en prenant que quelques projets qui me plaisent. Des projets sponsorisés par des marques sur YouTube, on en parlera après si tu veux, ou des projets de voyage, ou certains projets clients vraiment qui sont les plus créatifs possibles.
Tu es aussi très motivé par la stratégie entrepreneuriale qui regroupe et YouTube et ta boîte de prod et toute ta carrière en fait en entier. Et c'est aussi de ça que je parlais. T'aimes faire des stratégies, t'aimes comprendre quelle est l'étape suivante, comment faire pour optimiser, comment faire pour bien grandir, pour rencontrer des gens, pour faire les choses bien en fait.
Ouais, ce que j'aime, c'est plus réussir à atteindre les objectifs que je me suis fixé et pas être dépassé par ce qui se passe. Quand on crée une boîte au début, qu'on n'a pas forcément de notion entrepreneuriale, c'est qu'on va se dire j'ai tel projet client qu'il faut faire, tiens, il faut faire ça, et tiens, il faut aussi créer le compte pro, il faut aussi aller voir telle personne. Ah, si je faisais cette vidéo sur YouTube, et en fait, on a plein de choses, il y a tellement d'idées qui arrivent à la seconde et tellement d'opportunités qu'on peut facilement se perdre. Et après, on se sent un peu esclave de sa boîte. Et moi, ce que j'aime faire, c'est me dire, OK, Louis, c'est quoi tes objectifs ? De les fixer en amont. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, mettre en place un plan qui va me permettre d'atteindre ces objectifs. Et en fait, quand on fait ça, on est vraiment en maîtrise totale de ce qu'on fait et on peut faire les projets qu'on veut. Donc si tu veux, moi aujourd'hui, j'ai un de mes objectifs, c'est de développer ma chaîne YouTube. Un deuxième objectif, c'est de développer les meilleures formations possibles pour aider les vidéastes à progresser en vidéo. Autre objectif, c'est de faire les meilleures vidéos de voyage possibles d'un côté. Autre objectif, de travailler avec plus de gens sur un mode de production. Et en fait, je mets en place ces objectifs et j'essaie de ensuite de travailler au mieux pour atteindre ces objectifs. Et on n'a que 24 heures par jour, donc il faut absolument s'entourer, trouver les bonnes personnes. Et c'est un truc que je ne faisais pas au début. Au début, moi, j'étais juste vidéaste dans mon coin. Je voulais faire des vidéos tout seul. Mais à fur et à mesure du temps, je me rends compte que on est meilleur à plusieurs et que c'est aussi hyper agréable de créer une team autour de soi, quoi.
Donc, tu prends du plaisir à ça, donc dans l'optimisation, dans la performance, dans la recherche de toujours faire mieux. Et je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est peut-être des qualités que les artistes n'ont pas toujours, en fait.
Ouais.
Donc, tu n'as pas l'impression d'être différent par rapport à ça ?
Alors, je pense que les meilleurs artistes ont ça. Moi, je n'y crois pas trop au mythe de l'artiste maudit qui a de l'inspiration quand il est triste et qui prend de l'alcool et puis il va se bourrer la gueule, il va faire 10 000 peintures excellentes, etc. Je pense que les meilleurs artistes, ils ont un process et ils ont vraiment un système. Comme Picasso, tu vois, il se levait, il peignait 8 toiles dans la journée, il se couchait, il se levait, il peignait. Il avait vraiment un process et une routine, quoi. Donc, j'ai un côté très créatif en moi et j'ai un côté très structuré en moi. Et les deux, je pense, marchent bien ensemble. En France, on a vraiment l'image de l'artiste. Je sais pas, un espèce d'artiste maudit, ouais, qui est inspiré, puis il est plus inspiré, puis il a arrêté de travailler pendant une semaine, puis il a retravaillé, machin. Ça, j'y crois pas du tout. Je pense que voilà, les meilleurs artistes, ils travaillent beaucoup et ils ont des objectifs et ils ont un process, quoi. Et moi, je suis convaincu que les gens qui réussissent, de manière générale, artistes ou pas, ont ce truc-là. Et c'est pour ça que j'ai voulu le développer. Et c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à structurer les choses. Après, peut-être que j'ai un peu je suis un peu too much là-dedans. Je suis un peu trop dans l'optimisation, dans la performance. Et parfois, ça peut me jouer des tours par rapport à lâcher un petit peu prise, vivre l'instant présent, laisser un peu les choses se faire. Souvent, la vie aussi, c'est des imprévus qui se passent et ça te donne des opportunités. Mais je pense que c'est quand même important d'avoir une structure et d'avoir des objectifs clairs pour les atteindre, quoi.
Et quand tu vois le process de création de ta mère, du coup, qui fait des tableaux,
ouais.
Qu'est-ce que t'en penses ? Parce que c'est plus chaotique que ta façon de créer.
Ouais, bah, c'est vrai que ma mère, elle est beaucoup moins dans l'organisation, limite un peu exacerbée que j'ai, quoi, tu vois. Mais elle crée quand même beaucoup. Alors pour le coup, elle a un vrai process. C'est pas non plus l'artiste maudit. Pas du tout. C'est-à-dire qu'elle produit, elle se lève le matin, elle a sa petite routine, elle boit son café, elle produit ses tableaux. Elle est hyper efficace. Par contre, quand tu vois son bureau d'ordinateur, ou quand tu vois le bureau sur son ordinateur, ou son bureau même classique, c'est le bordel. Et moi, je suis pas du tout comme ça. Mais en fait, chacun sa façon de fonctionner. Elle, ça fonctionne très bien dans sa tête. Elle s'y retrouve, en fait. Donc, en fait, chacun, il y a pas de. Je suis pas en train de dire qu'il y a une règle ou quoi. Il faut que surtout être aligné avec ce qu'on pense soi et se sentir bien dans ce qu'on fait. Moi, je me sens bien quand c'est ultra carré. Tu vois, je me sens bien quand rien qui dépasse. Tu vois, je peux passer, si tu veux, 3-4 heures à trier mes fichiers, à acheter des trucs à la corbeille. Tu vois, je fais ça régulièrement tous les 6 mois pour me sentir bien, quoi. Donc, tu vois, c'est un point. La majorité des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils laissent leurs fichiers comme ça. Ils s'en fichent. Enfin, j'ai l'impression qu'ils s'en fichent un petit peu. Pareil, ma copine, elle est pas comme ça. Ma copine, elle vit au quotidien et elle s'en fiche complètement d'avoir des trucs pas rangés ou quoi. Et elle est excellente dans son travail. Elle est créative, mais elle a quand même ce process qui est indispensable, je pense, pour réussir en tant qu'artiste, quoi.
C'est quoi pour toi les qualités essentielles d'un bon vidéaste ?
Je dirais qu'il y a plusieurs qualités. Déjà, pour tout ce qui est pré-production et obtention des budgets clients, il faut avoir un très bon relationnel. Donc, il faut pouvoir communiquer de façon professionnelle et sympathique avec ses clients. Et ensuite, avoir un côté organisé pour quand même prendre les choses en main, être pédagogue aussi, de savoir leur expliquer les choses, savoir leur dire comment va se passer le projet, comment vous allez faire en sorte pour les prendre vraiment par la main, les accompagner pour atteindre un objectif souhaité. Donc, il y a tout ce côté relationnel, organisation en amont. Ensuite, sur le tournage, il faut bien sûr avoir des connaissances en vidéo, donc être curieux et se renseigner un maximum sur l'équipement, comment tourner une vidéo, et surtout beaucoup de rigueur sur le tournage. Un plan, on va essayer de l'avoir de différentes manières. C'est des choses qui ne s'improvisent pas tellement, quoi. Sauf quand on fait des vidéos un peu plus... ça run and gun, par exemple, en mariage ou quoi, où on va essayer de choper le maximum d'émotions, le maximum de plans à la volée. Quand on fait un tournage plus cadré, on a ces plans et on les suit, on les fait. Donc, beaucoup de rigueur pour, sur place pour avoir une bonne lumière, une bonne exposition, etc. Et ensuite, après, je dirais, pareil, énormément de rigueur et d'organisation pour le montage et de la patience. Parce que quand on travaille avec des clients, on est quand même à leur service et il faut savoir faire, voilà, ce que je disais tout à l'heure, la balance entre sa créativité, mettre ce qu'on a de soi dans la vidéo, mais en même temps répondre à la demande du client. Donc de la patience.
J'aimerais aussi que tu me parles de YouTube. Comment on fait pour gagner de l'argent avec YouTube ? C'est quoi les différents moyens qui existent ?
Alors c'est une bonne question qu'on pourrait élargir même à comment on fait pour gagner de l'argent avec la vidéo, puisque pour moi même YouTube est une manière de gagner de l'argent dans la vidéo. Mais si tu veux, sur YouTube, pour répondre spécifiquement, du coup, il y a plusieurs manières et la publicité c'est une manière mais il faut avoir une très grosse audience pour gagner quand même une somme suffisante en publicité. Il faut avoir des millions d'abonnés si on veut par exemple avoir, je sais pas, une rémunération d'environ 1 000 euros par mois. il faut faire des millions de vues et avoir des millions d'abonnés. Donc la publicité, pour moi, c'est une des pires manières de gagner de l'argent sur YouTube, pour cette raison, et notamment pour le fait aussi qu'on ne maîtrise pas ce qui se passe sur ta chaîne. Il y a des publicités qui vont être diffusées en avant de ta chaîne pour des marques que tu ne contrôles pas.
Ces publicités aujourd'hui sur ta chaîne YouTube, tu penses qu'elles représentent combien de pourcentage de ce que tu gagnes ?
Très peu, je pense qu'elles représentent peut-être 5% de ce que je gagne. Ensuite, il y a des autres sources de revenus possibles grâce à YouTube. On peut faire par exemple des vidéos sponsorisées avec des marques. Donc là, c'est un peu comme de la publicité, sauf que la marque vous demande de faire une vidéo sur une thématique particulière. Ça arrive en général quand on a aussi une grosse audience. Je pense que c'est des vidéos sponsorisées intéressantes arrivent quand on a autour de 100 000 abonnés sur YouTube. On a la possibilité de faire de l'affiliation. Donc là, c'est très simple. Ça veut dire que vous allez faire une sorte de publicité pour une autre marque, mais indirecte, par exemple à travers des liens de matériel. Donc moi, je suis affilié Amazon. Ça veut dire que quand je mets un lien Amazon d'affiliation et qu'une personne passe par mon lien, je vais toucher une petite commission sur l'achat du produit, mais le prix reste le même pour la personne qui achète. Donc ça, c'est une très bonne manière de gagner de l'argent sur YouTube, puisque vous recommandez des produits que vous aimez, vous recommandez des choses de qualité et vous pouvez gagner de l'argent via ça. Et ensuite, la façon la plus efficace, c'est effectivement de créer ses propres produits. Donc de créer par exemple des formations en ligne, de vendre, je sais pas moi, des séminaires, de vendre un pack de lutte, de vendre ses produits, puisque là, vous maîtrisez toute la chaîne de valeur. Donc vous créez un produit que forcément vous trouvez de bonne qualité et vous le marketez auprès de votre audience et vous le vendez. Du coup, vous maîtrisez tout. La personne qui achète, elle sait ce qu'elle a, elle achète, elle n'a pas une publicité qu'elle n'a pas voulu au début, elle a un produit que vous avez maîtrisé et s'il est à la hauteur, tant mieux. Elle vous a payé pour avoir un produit, tout le monde est content. S'il n'est pas à la hauteur, c'est un problème, c'est-à-dire c'est vous devez améliorer votre produit pour qu'il soit à la hauteur. Donc moi, c'est ce que je préfère faire. C'est pour ça que les formations, pour moi, c'est une super manière de gagner de l'argent sur YouTube. Ça permet de partager un maximum de choses que je connais et d'être payé pour ça, et en plus d'aider vraiment les gens. Donc c'est pareil, je ne suis pas très fan d'une autre manière de gagner de l'argent qui est par exemple Tipeee ou demander de l'argent à son audience. Vous savez, il y a Tipeee, il y a quoi d'autre comme... il y a Patreon. Patreon, voilà, qui sont des manières de un peu quémander un peu de l'argent à son audience et de dire « donnez-moi 5 euros, je vais faire des meilleures vidéos ». Ça, vraiment, moi, ce n'est pas du tout quelque chose que j'aime, puisque je préfère de loin dire à mon audience « je vous ai préparé un produit, j'ai travaillé dur pendant des heures, pendant des semaines pour faire un produit qui est à la hauteur, ça coûte tant ». Vous l'achetez. Si vous n'aimez pas, vous pouvez être remboursé de toute façon. Il y a toujours des garanties sur mes produits. Et on va travailler ensemble pour l'améliorer et faire en sorte que ce soit le meilleur produit possible. Donc voilà différentes manières de gagner de l'argent sur YouTube. Et ensuite, hors YouTube, il y a plein d'autres manières. Il y a faire de la production pour des marques, travailler en tant que freelance pour une autre compagnie, louer son matériel, mettre ses rushs sur une banque d'images vidéo pour vendre ses images. Voilà, il y a plein de choses. Ce n'est pas le sujet du podcast aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de manières de faire des revenus en vidéo. Je vous conseille en tout cas, si vous êtes dans la vidéo et que vous voulez pouvoir vivre de cette passion correctement, d'essayer de trouver ces différentes sources de revenus et de les activer. Il n'y a pas que faire des vidéos pour des clients, il y a plein de choses.
J'aimerais aussi parler des formations parce que tu passes beaucoup de temps à te former et tu passes beaucoup de temps à former les autres aussi via ta chaîne YouTube et via tes formations. Est-ce que tu peux me parler déjà de tes formations à toi ?
Juste avant, ça, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais juste pour que les gens comprennent bien ce que je fais, souvent j'aime bien l'expliquer avec un triptyque que je n'ai pas expliqué là, donc je le dis très rapidement. C'est que moi, en fait, pour moi, j'ai vraiment trois activités. J'ai d'un côté la production, donc ce qu'on a dit, je produis des vidéos pour des clients. Deux, je fais de la formation, effectivement. Donc j'ai une chaîne YouTube via laquelle je partage du contenu et ensuite derrière, je vends des formations à cette audience pour les gens qui veulent aller plus loin. Et en troisième, je dirais que le troisième pilier, c'est aussi l'influence, qui est moins développée, mais qui est aussi ultra intéressant, et ça c'est lié aussi à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram qui se sont développés aujourd'hui. Comme tu le disais tout à l'heure, j'ai plus de 60 000 personnes sur YouTube et environ 15 000 sur Instagram. Il y a des marques aujourd'hui qui m'appellent pour faire des voyages, des vidéos sponsorisées. C'est aussi hyper intéressant puisqu'on voyage, on rencontre des gens, on crée des choses, mais c'est vrai qu'on est moins dans une dynamique d'aider les gens et plus dans une dynamique publicitaire. C'est pour ça que moi je mets en avant aujourd'hui beaucoup la formation, comme tu disais. Et c'est vrai que je me forme beaucoup au quotidien. Je pense que c'est clé. Si tu veux former les autres, de toute façon, tu n'as pas le choix. Il faut apprendre tout le temps au quotidien. Donc, je me forme énormément avec beaucoup de formations gratuites et payantes. Donc, je suis toujours en train de scanner le web pour essayer de trouver des idées, pour essayer de savoir comment je pourrais améliorer tout mon savoir-faire autour de la vidéo. Et je me suis rendu compte que les gens appréciaient ça. Tu vois, aujourd'hui, il y a environ plus de 1000 personnes qui ont acheté mes formations. Donc, c'est un super résultat et je suis très content de pouvoir les aider. Mais aujourd'hui, je suis assez frustré puisqu'on me pose beaucoup de questions sur YouTube. Tu vois, la communauté grandit. Je reçois beaucoup de questions en commentaire, c'est impossible de répondre à toutes ces questions si je veux continuer à mener à bien mes autres activités. Je pense créer prochainement une formation beaucoup plus large sur la vidéo, au sens large, pour vraiment aider les gens à créer les meilleures vidéos possibles, donc des vidéos rendues professionnelles, mais aussi au rendu cinéma, puisque c'est un peu ce que je prône et ce que j'aime faire, et aussi avoir toutes les clés pour qu'ils puissent monter leur business autour de la vidéo et pouvoir en vivre le plus vite possible. Donc ça, c'est un des gros projets de cette année, 2019. Je travaille déjà dessus depuis environ 6 mois, 1 an. J'ai vraiment envie de plus aider les gens et les accompagner dans cette volonté de devenir vidéaste, quoi.
Bah écoute, merci d'avoir été mon 8e invité du podcast.
Ah bah c'est un plaisir, merci Lucas.
On va se boire un petit café ?
Allez.
Clap de fin. Voilà, c'est la fin de l'épisode 8. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le noter et à laisser votre avis sur Apple Podcast. Si vous voulez accéder au contenu bonus de Scope, il y a un lien dans la description. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.